Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Samuel Bernard, mais aussi Mélanie Chalandon, Marguerite Caton, Corentin Mansois, réalisée par Vincent Abouchard et mise en onde ce matin par Jean-Frédéric. Nouvelle série donc consacrée aux campagnes électorales, mode d'emploi. Mardi, nous nous pencherons sur le processus de sélection des candidats. On ira du côté du Sénégal et du Nigeria notamment. Mercredi, il sera question du financement des campagnes. On ira du côté de l'Ukraine cette fois. Jeudi, enfin, nous nous demanderons ce que révèlent les dernières campagnes américaines, mais aussi brésiliennes des nouvelles méthodes de mobilisation. Mais aujourd'hui, alors que les élections générales auront lieu au printemps prochain en Inde et que le Premier ministre Narendra Modi va devoir défendre sa politique menée depuis 4 ans maintenant, de l'Uttar Pradesh au Tamil Nadu, valoriser son bilan, c'est notre sujet ce matin dans Culture Monde.
C'est notre responsabilité de lutter contre tout ce qui pourrait diviser le pays. Et c'est pour cela que nous devons rester vigilants à tous les niveaux. Notre société a besoin d'être unie.
Pour obtenir l'unité, il ne suffit pas de le crier. Ce gouvernement a divisé le pays à cause de son orientation religieuse. Ce gouvernement a traité avec condescendance les crimes de haine. Et malheureusement, les minorités de ce pays sont devenues des citoyens de seconde zone. Ce n'est pas comme ça que l'on obtient l'unité.
Souvenez-vous, en 2014, il est arrivé au pouvoir grâce à des promesses très populaires. La création de 20 millions d'emplois chaque année, la redistribution de millions de roupies récupérées grâce à la lutte contre le travail au noir, le doublement du revenu des fermiers, la baisse des prix. Non seulement il n'a pas tenu ses promesses électorales de 2014, mais il a fragilisé l'Inde avec sa philosophie nocive et conflictuelle.
On entendait notamment un extrait d'un discours de Narendra Modi de janvier dernier. En 2014, l'actuel Premier ministre Narendra Modi et son parti, le BJP, avaient détrôné l'indéboulonnable parti du Congrès national indien à l'issue d'une campagne particulièrement efficace en flattant les instincts nationalistes de la majorité hindoue, mais aussi en multipliant les promesses sur le front de l'emploi, de l'industrie, de l'écologie, de la corruption. 5 ans plus tard, et à la veille de nouvelles élections générales, c'est donc l'heure du bilan. Un bilan que Narendra Modi va devoir bien défendre pour espérer être reconduit. Alors quel est le bilan justement économique, politique, social de Narendra Modi? Sera-t-il de nature à permettre sa reconduction? La corde du nationalisme hindou sera-t-elle suffisante pour convaincre ses électeurs? Ou l'opposition peut-elle espérer tirer son épingle du jeu? Est-elle d'ailleurs en ordre de marche pour faire son grand retour? Pour évoquer toutes ces questions, deux invités. D'abord Jean-Luc Racine, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes directeur de recherche émérite au CNRS et puis également chercheur senior à Asia Center. À vos côtés, Charlotte Thomas, bonjour.
Bonjour.
Merci également d'être avec nous. Vous êtes politologue et directrice du programme Asie du Sud de Noria. Je vais commencer avec vous, Jean-Luc Racine. 2014, le BJP de Narendra Modi remporte les élections générales avec une confortable avance, presque 39% pour le BJP, c'était 23,5% pour l'Alliance progressiste unie, qui était la coalition de centre-gauche à la tête de laquelle se trouvait Rahul Gandhi, donc le chef de file du Congrès national indien. À l'époque, on peut même parler d'un triomphe, puisque le BJP avait obtenu seul la majorité, ce qui n'était pas arrivé depuis 30 ans. Aujourd'hui, alors on ne connaît pas exactement la date des élections, mais ce qu'on voit déjà, ce que les sondages semblent indiquer, c'est que les choses pourraient être beaucoup plus serrées cette fois. Modi n'est absolument pas certain d'être reconduit.
Oui, ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu quand même un changement significatif depuis, on va dire, les élections du Gujarat, en début d'année 2018. En 2017, la plupart des observateurs indiens considéraient que le BJP était devenu véritablement un parti hégémonique, comme le Congrès l'avait été jadis. Un parti hégémonique, c'est-à-dire un parti qui dispose du pouvoir du gouvernement central, mais qui a aussi étendu considérablement sa toile dans les différents États de l'Union indienne, élection après élection. Et là, il y a eu véritablement une affirmation saisissante. Et puis les choses ont commencé à tourner. Le Gujarat, c'est le fief de Narendra Modi, où il a été plusieurs fois à la suite chef du gouvernement. Et cette fois, le parti a été réélu, mais avec une marge de manœuvre beaucoup plus étroite que prévu. Le Congrès a donné des signes nouveaux d'un dynamisme partiellement retrouvé. Et puis, avec les dernières élections dans trois États majeurs du centre de l'Inde, le bastion, en fait, du BJP, le Chhattisgarh, le Madhya Pradesh et le Rajasthan, le Congrès a gagné dans ces trois États. Et du coup, les observateurs se demandent, disons, les choses ne sont plus pliées d'avance, si j'ose dire.
Alors qu'effectivement, l'année dernière, si je vous avais invité en janvier 2018, a priori, en tout cas la majorité des observateurs nous disaient, bon, c'est pas une formalité, mais pas très loin. Et d'ailleurs, quand on regarde un peu les sondages, l'année dernière, on nous disait que Modi avait 70% de chances d'être reconduit. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus serré. Il y a par exemple un récent sondage de l'Institut Carvi India Today qui nous disait que 46% seulement de chances pour Modi d'être reconduit, avec 34% pour Rahul Gandhi, sachant que les dynamiques se sont largement inversées, que ça monte pour Rahul Gandhi et que ça baisse pour Narendra Modi. Qu'est-ce qui s'est passé, Charlotte Thomas? Pourquoi est-ce qu'il y a un an, c'était quasiment une formalité et aujourd'hui, on est très très loin du compte?
Parce que tout d'abord, les élections au Gujarat auxquelles Jean-Luc Racine a fait allusion en début 2018 ont montré en fait où l'endroit dans lequel l'électorat normalement acquis à Narendra Modi au BJP avait des failles, c'est-à-dire les paysans d'une part et une partie du vote vraiment hindou, c'est-à-dire chez les Dalits, autrement appelés aussi intouchables, mais donc les hors castes indiens, hindous. Et en fait, le problème, c'est que quand Narendra Modi est arrivé en 2014 pendant la campagne, il était vierge de tout mandat national d'une part, et d'autre part, il pouvait se targuer d'un bilan extrêmement bon au Gujarat sur le plan économique. Bilan qu'il a aussi beaucoup mis en avant et mis en exergue, alors qu'une une analyse plus longue du Gujarat montre qu'en fait, des résultats économiques étaient présents avant l'arrivée de Narendra Modi au pouvoir. Donc quand on arrive vierge de tout mandat, il est national, il est beaucoup plus simple de faire des promesses à tout le monde et de promettre beaucoup de package économique, comme on dit, à différents segments de l'électorat pour remporter le vote. Mais 5 ans après, on s'aperçoit que ces promesses n'ont pas été tenues, notamment à l'endroit des paysans indiens, puisque pendant la campagne, Narendra Modi avait notamment promis un doublement du salaire quotidien des paysans, ce qui n'est pas ce promesse sur laquelle il est revenu dès 2015. Donc en fait, les manifestations des paysans indiens ont commencé dès 2015, sont amplifiées au cours de l'année 2016-2017, mais il y avait déjà des prémices. Et effectivement, en fait, on s'aperçoit aussi que si le BJP a réussi à remporter toutes ces élections au niveau indien, c'est aussi parce que, au-delà des hommes politiques, il a aussi capturé des structures de pouvoir beaucoup plus locales, c'est-à-dire à un niveau beaucoup plus bas, local. Et que tout ça, en fait, s'ébrèche, puisque, encore une fois, les promesses ne sont pas remplies et qu'il y a des tensions sociétales. Après, je pense que l'émission montre aussi que, et nos débats montreront que au-delà de l'analyse aujourd'hui 100 jours à peu près avant le suffrage qui montre des failles dans cet électorat, des failles à la conversion en une défaite de Narendra Modi, on n'y est pas encore du tout puisqu'il y a encore un électorat très acquis à Modi.
On va évidemment se pencher sur le bilan notamment économique de Narendra Modi, mais effectivement en 2014, Jean-Luc Racine, Modi s'était fait élire en jouant sur la corde, je le disais, du nationalisme hindou, de la défense de l'identité hindoue et donc un discours de division, en tout cas de fragmentation, de hiérarchisation de la société. L'idée de Modi, le projet de Modi, c'était au fond de remettre en cause ce sécularisme indien, c'est-à-dire ce principe par lequel, au fond, l'État reconnaît toutes les communautés, toutes les confessions et qu'il les place, disons, sur un pied d'égalité. Est-ce que cette tactique peut s'avérer à nouveau payante aujourd'hui? Est-ce que un discours relent islamophobe comme on a pu l'entendre de la part de Modi peut s'avérer payant? C'est alors, une fois encore.
Ma lecture est un peu différente. Je pense qu'en 2014, Modi a eu l'habileté de faire passer au premier plan, dans son programme électoral, dans sa campagne électorale, les questions socio-économiques, dans la mesure où, sur le plan du nationalisme hindou, si j'ose dire, il n'avait plus rien à prouver. C'est quand même quelqu'un qui avait, toutes les sphères de ce qu'on appelle la famille des organisations du nationalisme hindou, le Sangh Parivar, depuis l'adolescence. Et c'est celui qui avait laissé se dérouler dans son état du Gujarat ce qu'il est convenu d'appeler aujourd'hui le pogrom anti-musulman de 2002, ce qui ne lui avait absolument pas nui politiquement. Là, la question telle qu'elle se pose aujourd'hui, c'est plutôt de savoir, par rapport au risque d'avoir déçu sur le plan socio-économique, comment va-t-il définir véritablement la campagne sur le plan du nationalisme hindou. Et là, on peut supposer qu'il va jouer d'une double tactique. C'est pas forcément lui qui sera le plus actif sur ce plan, mais ce qu'il faut bien voir, c'est que le BJP, c'est le bras politique de la maison mère du nationalisme hindou, le RSS, l'Association des volontaires de la nation, qui compte des centaines de milliers de membres qui vont s'impliquer dans la campagne électorale. Il peut donc jouer, comme il l'a fait d'ailleurs avec tous les incidents multiples, les lynchages sur les questions de la vache, il reste silencieux, et puis quand il voit que la pression est vraiment très forte pour dénoncer les dérives, à ce moment-là, il tient un discours convenu pour dénoncer ce qu'on appelle en Inde le communalisme, donc ce sentiment d'appartenance à une communauté, mais qui se forge dans l'opposition à une autre communauté religieuse. Il y a quelque chose d'assez significatif. L'un des grands vecteurs du nationalisme hindou avait pensé relancer une marche en faveur de la construction du temple de Rama à Ayodhya, un lieu hyper symbolique du nationalisme hindou. Et il semble que on hésite à savoir si on lance les choses maintenant. Le dernier point qu'on peut imaginer, comme le font certains observateurs indiens, c'est que si véritablement la situation devient plus difficile que prévu sur le plan socio-politique ou socio-économique, alors là, il n'est pas exclu que quelques émeutes bien calibrées, entre guillemets, permettent de recristalliser un sentiment d'appartenance qui pourrait bénéficier au parti actuellement au pouvoir.
Charlotte Thomas, on va venir vraiment aux questions purement économiques, mais même question que pour Jean-Luc Racine. Est-ce que vous pensez que cette fois, la corne nationaliste hindoue peut fonctionner malgré justement peut-être quelques insuffisances en termes de bilan économique et on va y venir. Et puis de façon plus générale, on l'a dit, Modi, il est venu avec un projet, disons, antiséculariste. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui comme bilan 5 ans après? Est-ce que réellement il l'a mis en œuvre? Ou est-ce qu'au fond, il faut être peut-être plus nuancé que cela et face à la responsabilité qui est la sienne de Premier ministre, eh bien, il a dû, j'allais dire, mettre un petit peu d'eau dans son vin et d'une certaine manière à défendre aussi ce sécularisme indien qui fait partie de l'identité du pays.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Jean-Luc Racine. En 2014, la campagne ne s'est pas faite en fait sur le nationalisme hindou et plutôt en fait, Narendra Modi ne dit pas qu'il bat en brèche le sécularisme indien. Il dit qu'il met en œuvre le vrai sécularisme et au contraire du Congrès qui faisait une politique d'apaisement envers les minorités.
Allez, c'était pas un enjeu de campagne, mais on est bien d'accord pour dire que c'est quand même ce qui a fait sa victoire de 2014.
De 2014, aussi beaucoup avec la variable économique, en fait. Parce que en 2014, comme le disait Jean-Luc Racine, la partie nationaliste, un peu émeute, violence, n'a pas été prise en charge par Narendra Modi, par son bras droit. Hein, donc il est complètement complice de ça et il approuve en coulisses. Mais c'est Amit Shah, son bras droit, qui s'est occupé du volet beaucoup plus intercommunautaire et violent.
Qui tient le parti aujourd'hui.
Voilà, exactement, qui est à la tête du BJP. En revanche, non, Narendra Modi a été élu beaucoup, en fait, sur ses résultats économiques du Gujarat, sur ce qu'on appelle entre guillemets la Moditva, c'est-à-dire sa formule qui allie en même temps l'hindouité et l'économique. Et quand on discutait en 2013, donc avant les élections, avec les jeunes urbains éduqués, riches de New Delhi par exemple, ils vous disaient que ce qui les intéressait le plus était justement cette variable économique et pas du tout les incidents intercommunautaires. Après, si on prend le modèle du Gujarat, il faut savoir que les pogroms de 2002 ont eu lieu en fait suite à la prise de fonction de Narendra Modi en octobre 2001 et que ces pogroms ont eu lieu parce qu'il y avait des élections qui approchaient, que le BJP en avait déjà perdu et que justement cette stratégie de mise en œuvre des émeutes intercommunautaires permet de recristalliser un électorat hindou auprès d'enjeux identitaires. Donc on peut se demander voilà, dans quelle mesure il va utiliser cette corde pour pallier un bilan économique déficient.
Bon, alors vous le disiez, donc l'un des grands défis, la grande promesse de Modi, c'était d'améliorer la situation économique du pays. Quand on regarde un petit peu les choses, on voit que la croissance est très bonne, on est environ à 7%. Mais peut-être que derrière tout cela, il y a un constat peut-être un peu plus nuancé. Je vous propose d'abord d'écouter un petit extrait sur un des grands choix en termes de politique économique de cette mandature, c'est la démonétisation. C'est pas le seul, mais c'est un des choix. On l'écoute et puis on se retrouve après.
Pour libérer le pays des démons de la corruption et de l'argent sale, aujourd'hui à minuit, les billets n'auront plus aucune valeur légale.
Il y a une énorme pénurie, nous n'avons plus de petites coupures. Mes poches sont vides et c'est pareil chez moi. Il y a une pénurie de petites coupures partout. Si vous achetez du lait, le laitier n'accepte plus les pièces. Dans les stations-service, on ne peut pas prendre d'essence en dessous de 500 roupies. La pénurie est énorme.
Voilà, quasiment du jour au lendemain, c'était en novembre 2016, le gouvernement décide de retirer tous les billets de 500 et de 1000 roupies, considérant que... En tout cas, espérant que ça allait faire reculer la corruption, qui est évidemment un des grands défis. Peut-être un mot, Jean-Luc Racine, sur les effets effectivement de cette démonétisation, et puis plus généralement sur le bilan économique de Modi.
Oui, alors la démonétisation est significative d'un mode de gouvernance. De toute évidence, la Banque centrale indienne n'a pas été préparée à un tel événement. Donc on a vraiment l'impression que c'est un tout petit noyau au sein des bureaux du Premier ministre qui a décidé de ce coup de tonnerre.
Ça révèle l'extrême concentration du pouvoir.
L'extrême concentration du pouvoir. Et c'est pas un hasard si il y a eu des tensions après avec la Banque centrale. Fondamentalement, sur le plan, et pour Modi, il se peut qu'il ait à payer le prix du souvenir des inconvénients de cette démonétisation qui, pour le reste, n'a pas véritablement fait disparaître l'argent sale ou l'argent noir, comme la Banque centrale l'a elle-même signifié quelques mois plus tard.
Non, ça a fragilisé l'économie ? Au-delà du fait que ça n'a pas marché sur la lutte contre la corruption,
ça a fait baisser la croissance pendant l'année qui a suivi. Mais donc aujourd'hui, et je pense que c'est ça l'essentiel, sur le plan macroéconomique, Modi peut donner des chiffres relativement satisfaisants. Vous l'avez dit, la croissance sera de l'ordre de 7% cette année. Donc l'Inde a maintenant dépassé la Chine, mais évidemment la Chine a derrière elle 30 ou 40 ans de croissance continue. L'inflation est revenue à un niveau raisonnable, les déficits publics, somme toute, vont assez bien.
On a un problème de chômage.
Voilà. La vraie question, c'est pas les chiffres macroéconomiques. Évidemment, il vaut mieux qu'ils soient bons que mauvais. Mais la vraie question, c'est que des chiffres macroéconomiques satisfaisants peuvent masquer des situations socio-économiques beaucoup plus difficiles. Et là, l'enjeu majeur sur lequel une bonne partie des gens ont voté pour lui, même s'ils n'étaient pas du tout des tenants du nationalisme hindou, c'est la question de l'emploi. Il y a 10 millions de jeunes Indiens qui entrent chaque année sur le marché de l'emploi. Et là, sur ce plan-là, il est clair que les multiples stratégies mises en œuvre n'ont pas fonctionné.
Charlotte Thomas, officiellement, les chiffres, en tout cas du gouvernement sur le chômage, c'est 2%. Et il y a quelques semaines, il y a un rapport de l'Institut indien des enquêtes statistiques qui a fuité dans la presse, évoquant un chômage de 6,1% sur la période 2017-2018, ce qui constituerait, si ces chiffres sont vrais, tout simplement un record sur les 30 dernières années, depuis qu'on prend les chiffres du chômage en Inde. Alors, qu'en est-il ? Quel est le niveau de chômage aujourd'hui en Inde ? Et est-ce que, au fond, on a là la plus grosse faille du bilan économique de Narendra Modi, qui avait promis, je crois, 20 millions d'emplois supplémentaires.
Oui, c'est ça. Enfin, c'est-à-dire que déjà sur la démonétisation, a priori, les chiffres disent que le pays a perdu à peu près 2% de croissance de PIB, les analystes indépendants. Par ailleurs, effectivement, il y a un taux de croissance de 7 et quelques pourcents, mais en fait, comme le mentionnait Jean-Luc Racine, par rapport au volume de population active qui arrive tous les ans sur le marché indien, il faudra en fait à peu près plutôt 8% pour pouvoir absorber toute cette main-d'œuvre. Par ailleurs, il y a aussi, pendant le mandat de Narendra Modi, une destruction des emplois manufacturiers, donc une augmentation du chômage dans ces classes populaires-là, et puis une augmentation, oui, du chômage avec en fait un nombre d'actifs au chômage plus important, en fait, prévu pour être plus important en 2009 qu'il l'était en 2018. Donc effectivement, il y a ce problème, d'une part, des emplois faiblement qualifiés qui ne trouvent pas d'emploi stable ou d'emploi viable, c'est-à-dire avec lequel on gagne assez pour vivre au quotidien, et tous les jeunes diplômés et très diplômés qui ne trouvent pas non plus d'emploi. Donc effectivement, à cet égard, en fait, les promesses ne sont pas remplies de création, et c'est ce que je disais en début d'intervention, c'est-à-dire qu'à force en promettant une création d'emplois de X millions d'emplois, enfin une création de X millions d'emplois par an, quand ça ne fonctionne pas et quand le chômage augmente, ça crée un problème. Et sur les chiffres, la réponse de Narendra Modi à l'enquête à laquelle vous y allusion a été de dire que les chiffres étaient mal calculés. Donc, et il y a aussi aussi des façons de calculer le PIB qui ont été revues pour gonfler les chiffres de la croissance. Donc il y a les chiffres, en fait, effectivement, indiquent une croissance relative et en tout cas non pourvoyeuse d'emploi. C'est un problème qui n'est pas du tout nouveau puisque c'est le problème de l'économie indienne depuis des années, des décennies, mais que Narendra Modi n'a pas su répondre à ce problème, quoi.
Jean-Luc Racine, sur cette question du chômage, par ailleurs, la bataille des chiffres, hein, c'est pas spécificité indienne, on connaît ça, nous, à chaque fois que les chiffres sortent, il y a des batailles aussi, donc on peut les comprendre, mais comment s'y retrouver justement, et en termes de création d'emplois, quel bilan peut faire ?
Il y a deux batailles sur les chiffres. Il y a la bataille sur les chiffres officiels, comme il y a une bataille sur ce qu'est véritablement la ligne de pauvreté. Mais dire que l'Inde a un taux de chômage de 6 et quelques pourcents, ça n'a absolument aucun sens dans une économie où entre 85 et 90% des emplois relèvent du secteur informel. Que ce soit les petites et micro-entreprises ou le monde paysan. Donc ces chiffres-là ne portent que sur le secteur formel. Donc en fait, évidemment, ça n'a pas vraiment beaucoup de sens. La vraie question, c'est, et ce qui a été dit, c'est que en dépit du battage médiatique national et international du gouvernement sur le fameux programme Make in India, venez investir en Inde, dans l'industrie pour l'essentiel. Ce programme a certes fait venir davantage d'investissements étrangers que par le passé, ça c'est indéniable, mais ça ne s'est pas suffisamment traduit en termes de relève du monde industriel. Et la question est là, on a d'un côté une économie agraire qui est en crise, avec des manifestations répétées et un chiffre effrayant de suicides de paysans. Et de l'autre côté, on voit bien que le vieux problème est finalement toujours le même. On n'arrive pas à faire transférer des ex-emplois paysans dans un monde industriel. Et ça, c'est une question qui ne dépend pas uniquement de Modi, mais on voit aussi ce qu'était la limite du modèle, comme il a été dit tout à l'heure, du modèle du Gujarat. C'est que certes, le modèle économique du Gujarat donnait des indices bien meilleurs en matière d'investissement, d'électricité, de facilité pour créer des usines et tout ça. Mais en réalité, il a été montré que quand on comparait le Gujarat aux autres grands États indiens, sur le plan social, les paramètres étaient exactement la moyenne nationale. Donc aujourd'hui, la question se pose, ceux qui ont cru en Modi comme étant celui qui allait véritablement relancer l'économie, mais pour tous, et après tout, c'était le slogan de la campagne. Le slogan de la campagne, c'était « tous ensemble, le développement pour tous ». Et donc aujourd'hui, il va falloir expliquer qu'en dépit d'une centaine de projets de développement, certains empruntés au Congrès et rebaptisés, d'autres nouveaux, il y a
eu
des avancées.
Le Congrès étant le parti de l'opposition, je rappelle pour
oui,
nos,
le Congrès
pour
parti
les
de l'opposition,
qui ne sont pas forcément complètement au fait avec la politique indienne.
Il reste donc à voir comment l'électorat va juger. Pour le moment, vous l'avez dit, hein, il y a des sondages qui laissent penser quand même que le BJP pourrait revenir au pouvoir sans la majorité absolue qu'il avait en 2014, mais à la tête d'une coalition. Il lui manquerait probablement quelques dizaines de sièges si les sondages de janvier se confirment, mais quand il manque en Inde quelques dizaines de sièges, c'est très facile de les trouver.
Charlotte Thomas, j'ai vu que vous vouliez réagir, et puis je vais me permettre d'abord de vous glissez peut-être une autre question autour de la corruption, parce que c'était aussi l'un des grands défis de Narendra Modi. Il est arrivé aussi sur ce thème-là, sur le mode « moi, je vais vraiment lutter contre la corruption ». Là aussi, c'est peut-être intéressant de faire un premier bilan. Peut-être d'ailleurs peut-on corréler cette difficulté à créer des emplois avec justement le travail qui est fait pour lutter contre ce phénomène de la corruption. Charlotte Thomas.
Oui, tout à fait. Je pense qu'en fait, et l'histoire de la corruption et le problème de l'économie sont liés à la privatisation, enfin au fait que Narendra Modi au Gujarat, pour développer le Gujarat, s'est beaucoup appuyé sur une politique économique qui repose sur la libéralisation et la privatisation, donc avec un retrait en fait de la puissance publique. D'où d'ailleurs, quand on se balade au Gujarat, des écarts énormes entre les quartiers riches, entre guillemets, où donc il y a toutes les infrastructures, et là on peut se targuer d'être une smart city avec l'électricité internet, parce que en fait c'est payé par des opérateurs privés, et les quartiers moins favorisés où en fait la puissance publique est en retrait et donc il n'y a pas toutes ces infrastructures, ce qui explique le décalage en fait et le fait que le Gujarat rentre dans les moyennes basses d'ailleurs des États indiens en termes de développement économique et sociaux général. Et du coup en fait là, le rapport à la corruption, c'est que Narendra Modi donc a été élu comme vous le disiez aussi en promettant cette lutte contre la corruption dont la démonétisation était aussi pour laquelle la démonétisation était aussi censée lutter, ce qui n'a d'ailleurs pas du tout fonctionné, puisqu'en fait les premiers impactés par les mesures de démonétisation ont été les petits revenus, donc pas ceux qui transfèrent de l'argent et qui ont des comptes offshore. Mais on s'aperçoit par exemple que sur le Make in India, toute l'affaire des Rafales montre en fait un petit peu, donc l'affaire des Rafales qui a été révélée par Mediapart.
Il faut le préciser.
Donc l'affaire des Rafales qui a été révélée par Mediapart, où pour le dire très brièvement, le contrat initial signé par le parti du Congrès faisait état de 126 Rafales, dont la majeure partie devait être créée en Inde, justement pour faire d'une part un transfert de technologie, mais aussi créer de l'emploi. Quand Narendra Modi est arrivé au pouvoir, lui, il est revenu sur ce contrat pour en signer que 36 prêts à voler, c'est-à-dire que la dimension de transfert de technologie n'existait plus d'une part, et d'autre part, les créations d'emplois qui étaient prévues en Inde étaient bien moindres, puisqu'il s'agit de 36 avions prêts à voler. Et là, en fait, ça pointe vraiment une contradiction du discours de...
Pardon, mais pourquoi il a fait ça? Puisque ça ne profite pas à l'emploi indien.
Pourquoi il a fait
ça? Enfin, moins, en tout cas.
Ça profite à ses amis, à ses amis chefs d'entreprise, notamment Anil Ambani, donc qui est le frère de Mukesh Ambani, donc Mukesh étant la plus grande fortune d'Asie. Anil Ambani étant un proche de Narendra Modi, ce qui est connu, puisque, comme le disait Mediapart, c'est même Modi qui a conseillé à son ami Anil Ambani d'investir dans le secteur de la défense. Il se trouve qu'Anil Ambani n'est pas un très bon gestionnaire, mais c'est bien entouré, et que donc son entreprise était en grosse difficulté financière. Et dans le cadre de la signature de ce contrat où le groupe d'Anil Ambani fait partie de la joint venture signée avec Dassault Aviation, en fait, de façon indirecte, mais un groupe privé va récupérer à peu près 4 milliards d'euros d'investissement. Mais ça montre bien, ce que je voulais dire juste, c'est que ça montre bien cette privatisation de l'économie, cette contradiction entre on veut créer des emplois, mais en fait on se replie uniquement sur le secteur privé, ce qui ne peut pas fonctionner partout. En fait.
Bon copain, échange de faveurs, Vudin de l'affaire des Rafales, un papier qui va bientôt être diffusé sur le site AOC pour justement bien comprendre depuis l'Inde cette affaire des Rafales qui illustre bien, Jean-Luc Racine, cette question de la corruption qui évidemment est toujours présente et qui montre bien que Narendra Modi n'a peut-être pas fait ce qu'il avait dit qu'il ferait sur la question de la corruption. Et d'ailleurs on voit que l'opposition tape très fort sur ce sujet-là. Rahul Gandhi a tapé très fort déjà depuis des mois maintenant sur ce sujet de la corruption.
Oui, et on peut penser que l'affaire va continuer à rebondir. Il y a eu encore aujourd'hui, dans un des grands journaux indiens qui suit la question de très près, des révélations, on va dire, gênantes. Le fait que, d'une part, ce n'est pas le ministère de la Défense qui a vraiment mené les négociations, alors que normalement c'est à lui à les mener, fût-ce sous l'œil des bureaux du Premier ministre. Et on apprend aujourd'hui que une clause qui devait offrir les garanties bancaires, comme il se doit dans des contrats pareils, a été effacé. Donc, Modi avait plutôt une bonne image de Monsieur Propre. Et il est vrai que par rapport à ce qu'a été en fait le deuxième mandat du Congrès de 2009 à 2014 où les affaires de corruption se sont multipliées, Modi pouvait présenter un bon bilan. Mais là, l'affaire des Rafales, dont on voit bien que le principal bénéficiaire est un de ses proches qui n'avait pas de véritables compétences technologiques, évidemment, l'opposition se prolèche les babines et on va voir si ça risque d'être payé très cher à l'heure de l'élection. On n'en sait rien encore pour le moment, mais il y a là un point faible incontestable.
Charlotte Thomas, vous voulez
dire? Oui, juste un petit ajout. C'est, on peut se demander pourquoi ce copinage. Alors, si on met en parallèle deux informations, il y a une récente étude qui est sortie dans la presse indienne qui expliquait que, en fait, le BJP est le parti qui est le plus financé de sources inconnues et 80% de son financement à peu près vient de sources inconnues. On peut donc émettre l'hypothèse d'un transfert peut-être de fonds d'un financement entre ce qui ne serait pas complètement extraordinaire, mais d'un financement des grands groupes aux partis au pouvoir.
Et là, la question qui se pose aussi, Jean-Luc Racine, c'est quel est l'état du soutien ou du manque de soutien aujourd'hui des entrepreneurs indiens à l'égard de Modi? Parce que là, on a fait un tableau assez noir du bilan de Narendra Modi, et on l'entend, mais il y a aussi peut-être des choses plus positives à mettre à son actif. Par exemple, il a remis un peu à plat une nouvelle taxe qui est une forme de TVA fédérale qui vient remplacer d'autres petites taxes qui étaient extrêmement variables d'un État à un autre. Et ça, je crois que les entrepreneurs indiens ont plutôt salué cette évolution. Alors, est-ce que c'est suffisant pour que Modi jouisse du soutien des entrepreneurs indiens aujourd'hui?
Alors, en gros, les entrepreneurs indiens, comme toujours, essaient de bien s'entendre avec les principaux partis du jeu politique. D'accord. Mais il est vrai que Modi, qui avait créé au Gujarat ce grand show du business qui s'appelait le Gujarat vibrant, avait su capter l'appui de grands patrons emblématiques, y compris Monsieur Tata, qui est vraiment emblématique du grand capitalisme indien. Certains milieux des affaires ont un peu froncé les sourcils quand il y a eu ces lynchages à répétition en disant qu'on peut pas à la fois vouloir donner une image d'une Inde moderne, technologique, ouverte, et puis traîner ces choses-là. Aujourd'hui, il semble que face à la remontée de la croissance, le patronat a quand même une image plutôt positive. Vous l'avez dit, l'instauration d'une TVA qui s'est faite avec quelques difficultés, finalement, c'est en train de se stabiliser, même si les États indiens ne sont pas tous satisfaits parce qu'ils considèrent qu'on leur a pris une partie de leur argent. La campagne de Modi en 2014 avait été, et de loin, la plus chère de toute l'histoire politique indienne. Et on peut penser que celle de 2019 battra les records de 2014.
C'est une tendance générale.
C'est une tendance générale, mais il faut voir que Modi, c'est aussi le grand communicateur. Modi, c'est une bête politique. Véritablement. C'est pas un hasard. Hein. Il n'est pas sorti des dynasties, et ça fait partie de son image. Il vient de milieux modestes. Il est arrivé au sommet à la force du poignet, si j'ose dire. Et il joue de cela contre ce qu'il appelle la dynastie, c'est-à-dire la famille Nehru-Gandhi. Mais en même temps, c'est un homme qui a un compte Twitter. Alors, c'est pas tout à fait aussi compulsif que Donald Trump, mais presque. Il s'adresse au peuple indien tous les mois, radio, télévision, Google, et j'en passe.
Donc, oui, mais enfin, ça c'est très bien. Et puis tous les chefs d'État le font. Et puis quand ils le font pas, on leur reproche.
Non, attendez. Il y a façon de faire. Il y a le degré. C'est-à-dire, c'est aussi un des objets du débat politique aujourd'hui. À savoir, derrière le discours, derrière la rhétorique qui n'en finit plus de couler, qu'y a-t-il véritablement? Donc, de ce point de vue-là, l'appui du patronat est important, mais il va falloir attendre, parce que si l'affaire Rafale véritablement explose à la tête du gouvernement... mais pour les financements, je crois que Narendra Modi n'a pas trop de soucis à se faire.
Charlotte Thomas, avant qu'on passe à la question des agriculteurs et de la crise dans le monde paysan.
Oui, très rapidement, en fait, sur déjà la sphère économique, il faut quand même distinguer entre le grand patronat et les plus petits entrepreneurs qui ont en fait subi la démonétisation d'une part, et aussi l'instauration de la taxe unifiée, enfin de la TVA unifiée, parce que ça ne s'est pas fait sans mal. Et il y a encore une unification qui a géométrie variable, parce que par exemple sur les pâtisseries indiennes, il y a des taxes différentes qui s'appliquent selon la composante de la pâtisserie. Donc, vous voyez, pour prendre un exemple très précis, on n'est pas encore sur une uniformisation. Voilà, globale. Donc, il y a encore des petites subtilités. Et puis, c'est ça, il faut vraiment avoir en compte que ce marché des Rafales, déjà, bon, est un objet, mais il y a d'autres affaires qui sont en train un peu d'éclater à cet égard, parce qu'a priori, la réforme du secteur des télécoms favorise aussi un grand groupe proche de Narendra Modi. Le projet d'énergie solaire favorise un autre grand groupe proche de Narendra Modi, tous originaires du Gujarat. Donc, il faut aussi mapper un petit peu, distinguer les différentes échelles du monde économique dont on parle.
On parlait des emplois. Aujourd'hui, en Inde, un travailleur sur deux travaille précisément dans l'agriculture. Et ces derniers mois, vous l'avez un peu dit l'un et l'autre, les agriculteurs ont été très régulièrement ont manifesté. Écoutez.
Cela fait 3 ans que ce gouvernement est arrivé au pouvoir et depuis, il n'a jamais fait preuve de réelle compréhension vis-à-vis des agriculteurs. Chaque année, de nombreux agriculteurs se suicident. Lorsque ce gouvernement a gagné les élections, il a dit qu'il mettrait en œuvre les recommandations de la commission du professeur Swaminathan et que les agriculteurs obtiendraient un prix juste pour leur production. Mais ce gouvernement a oublié toutes ses promesses. C'est pourquoi tant d'agriculteurs dans le Maharashtra, et particulièrement à Marathwada et à Vidarbha, se sont suicidés. Je viens de Marathwada et là-bas, le gouvernement a promis l'an dernier que ses dettes allaient être annulées. Mais pas une seule de ces dettes n'ont été annulées depuis. Le personnel bancaire nous a dit que le gouvernement ne leur avait donné aucun argent et c'est pourquoi ces dettes ont pu être annulées.
Extrait d'un reportage d'Hindustan Times en mars 2018. Charlotte Thomas, Jean-Luc Racine, si on compare la situation des agriculteurs aujourd'hui par rapport à ce qu'elle était il y a 5 ans, juste avant ou au moment de l'élection de Narendra Modi, comment est-ce qu'elle a évolué cette situation et dans quelle mesure précisément s'est-elle dégradée? Qui veut commencer?
Disons que Jean-Luc Racine, il n'y a pas eu de changement structurel. C'est-à-dire qu'il y avait déjà une crise agraire, elle s'est plutôt aggravé, en partie pour des raisons économiques, en partie pour des raisons écologiques. Hein. D'une certaine façon, l'Inde est en train de payer le prix de la révolution verte des années 70, avec épuisement des nappes phréatiques, abus des engrais, des pesticides, etc. Mais la question sous l'angle politique est la suivante. Le monde rural, c'est 70% de la population. C'est infiniment moins en termes de part du produit national brut. Et donc, les élections du Gujarat ont été une sonnette d'alarme pour Modi, parce qu'on a bien vu la césure entre la façon dont votait le monde des campagnes et dont votait le monde des villes. Donc, ça n'est pas tout à fait par hasard. Lors de la présentation du budget intérimaire, puisque c'est une année électorale le 1er février dernier, tout à coup, il est apparu des mesures censées favoriser les paysans, et on retrouve les revendications qui venaient d'être exprimées dans ce reportage.
Pourquoi est-ce qu'on n'a pas répondu à ces revendications avant?
Il y avait
des engagements très forts de Narendra Modi avant d'arriver au pouvoir.
Mais ce sont des questions extrêmement complexes parce que fournir un prix garanti aux paysans, c'est une chose, le promettre. Le faire effectivement en fonction des fluctuations des récoltes, c'est beaucoup plus compliqué. Effacer l'ardoise des dettes qui assaillent les paysans, ça, c'est un vieux truc électoral, tout le monde le fait, mais les paysans se plaignent souvent.
Tout le monde le dit, mais personne ne le fait.
Certains le font, mais jusqu'à quel point? C'est un argument de campagne essentiel. Donc, c'est une question structurelle, et c'est pour ça que c'est très difficile à régler.
Charlotte Thomas, sur cette question de la crise des campagnes, ce qu'avait promis Narendra Modi, les revendications aujourd'hui des paysans, et est-ce que c'est pas dans ce monde-là précisément que pourrait se jouer l'élection? On voit que le Congrès national indien, là aussi, a bien compris qu'il y avait un enjeu extrêmement fort, et donc lui aussi, il va de ses propres promesses, avec un revenu minimum, avec justement les fameuses ardoises dont parlait Jean-Luc Racine, qu'il promet ce parti d'opposition d'effacer. Est-ce qu'il y a là, finalement, l'enjeu de l'élection?
Oui, c'est ça. Enfin, c'est déjà pour donner 2-3 notions, mais le secteur agricole représente à peu près 50% de la population active, pas de la population totale, mais active, avec seulement 18% du PIB. Et si on prend le cas du Gujarat, effectivement, enfin, des élections qui ont lieu au Gujarat, donc en 2018, après l'élection générale, en fait, les circonscriptions qu'a perdu le BJP sont précisément les 16 circonscriptions rurales, parce que les promesses n'avaient pas été délivrées. Alors, une des promesses de campagne en 2014, c'était effectivement le maintien d'un salaire minimum. Comme je le disais, dès 2015, en fait, un groupe de paysans a porté réclamation devant la Cour suprême pour exiger que ses promesses soient remplies. Et dès 2015, Narendra Modi est revenu sur cette promesse très clairement en disant que s'il relevait le salaire minimum, ça allait impacter l'ensemble du secteur agricole. Et en fait, ce qu'on entend un peu là-dedans, c'est plutôt les grands groupes et les intermédiaires. Parce que le problème des réformes agraires qui sont faites, c'est qu'en fait, elles n'adressent pas deux grands problèmes qui sont les intermédiaires entre le petit paysan et le point de vente, puisque ces intermédiaires, en fait, ce sont eux qui captent la majeure partie des aides qui sont des aides publiques qui sont mises en œuvre, et puis les problématiques afférentes au foncier, c'est-à-dire que les paysans sont sans terre, et ça, ce n'est pas du tout pris en compte par le gouvernement. Les mesures qui ont été annoncées sur le budget intermédiaire auquel il a été fait référence tout à l'heure, en fait, sont décriées dans à peu près toute la presse indienne, qu'elle soit plus conciliante ou non avec le gouvernement, parce
Pourquoi ?
parce qu'en fait c'est une somme d'argent sonnante et trébuchante, c'est-à-dire que le gouvernement a dit que les foyers qui ont, je crois, qui cultivent moins de 2 hectares par an, pas 2 hectares ou quelque chose comme ça, allaient recevoir tous les ans un paquet, enfin de l'argent, hein, sur leur compte en banque de 6000 roupies, ce qui en fait ne solutionne absolument rien, mesure qui est censée être rétroactive, c'est-à-dire le premier versement est censé donc de 2000 roupies, puisque ce versement de 6000 roupies est censé intervenir en 3 tranches. La mesure a été prise à titre rétroactif, avec le premier versement qui est censé arriver comme par hasard en mars 2019, donc on est quand même très très proche des élections. Mais en fait, c'est une cautère sur une jambe de bois, parce que ça ne résout pas du tout et ça n'adresse pas les problèmes structurels du secteur agricole. Donc on est en fait vraiment dans quelque chose de purement électoraliste.
Allez, on va parler maintenant de la question de l'opposition. Juillet dernier, le gouvernement a fait face à sa première motion de censure.
Our finance minister said,
Une séance extrêmement mouvementée. On entend notamment Rahul Gandhi, donc, qui énonce cette motion de censure. C'était le 20 juillet 2018, une motion qui n'avait pas abouti, mais c'était un geste très symbolique, puisque Rahul Gandhi, donc, du parti du Congrès national indien, avait pu donc exprimer un certain nombre de critiques à l'égard de l'exécutif, et il avait d'ailleurs notamment évoqué cette question des rafales dont on parlait tout à l'heure. On va retrouver un nouvel invité par téléphone, Balvir Arora. Bonjour.
Bonjour.
Merci infiniment d'être avec nous en direct de New Delhi. Donc il y aura évidemment un petit décalage dans notre échange. Vous êtes professeur de sciences politiques émérite, directeur du Centre du fédéralisme multiniveau de New Delhi. On est maintenant 6 mois après cette motion de censure que j'évoquais, 3 mois quasiment avant l'élection. Est-ce que vous diriez de façon générale que aujourd'hui l'opposition est en ordre de marche pour éventuellement remporter cette élection?
Oui, l'opposition s'organise, se mobilise, et les partis régionaux se rendent compte que s'ils ne font pas alliance, ils vont Modi va pouvoir gagner comme il l'a fait en 2014. Et donc, et aussi les résultats des élections de Rajasthan, de Madhya Pradesh, où le BJP et le Chhattisgarh, où le BJP, les BJP et le Congrès se sont affrontés face à face, ça a redonné au Congrès aussi quelques forces pour essayer de récupérer les terrains perdus, notamment en Uttar Pradesh, parce que l'Uttar Pradesh a un sens tout à fait particulier pour le Congrès, parce que c'était la famille Nehru et Gandhi qui ont toujours gagné les sièges de l'Uttar Pradesh.
Mais vous parlez justement de l'Uttar Pradesh. Il se trouve qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de cadres du Congrès national indien qui rejettent l'idée d'un accord, d'une coalition avec d'autres partis, notamment avec le BSP, qui représente les Dalits, avec également le SP, qui est un parti plutôt de basse caste, qui est cantonné à cet état-là. Et puis, il y a d'autres états où là, en revanche, les coalitions, le front, j'allais dire, anti-Modi fonctionne. Je pense par exemple au Karnataka, où en mai 2018 il y avait eu des élections qui avaient été remportées par le BJP, mais où les jeux de coalition avaient finalement privé justement le BJP d'une majorité absolue. Alors est-ce qu'on peut tirer des leçons sur un front éventuel anti-Modi au niveau fédéral? Est-ce qu'on peut imaginer que des alliances effectivement qu'on a pu voir au niveau local se généralisent au niveau fédéral?
Je crois que l'alliance au niveau fédéral est... le caractère de la coalition qui pourrait se former après les élections il va falloir attendre, parce que le tactique actuelle consiste à faire une campagne autour des chefs régionaux. Donc Modi doit se disperser et de combattre chaque chef régional au lieu de continuer à s'attaquer à Rahul Gandhi comme le dernier de la dynastie qu'il oppose depuis toujours. Donc il y a sauf quelques États, et l'Uttar Pradesh c'est important. Vous aviez parlé de Mayawati et du BSP, et la question de l'alliance avec un parti des Dalits ou un parti des basses castes, le SP. Ces deux partis se sont mis d'accord parce qu'ils étaient rivaux et ils étaient même assez férocement, ils se sont combattus, se sont mis d'accord pour présenter front commun. Alors, pour le Congrès, il y avait deux choix. C'est de être un partenaire junior minoritaire ou de rester, garder son identité. Et ça a toujours été un problème vis-à-vis de ces cadres dans les États. C'est les cadres insistent que le parti ne se fonde pas dans une alliance dominée par les autres petits partis, mais qui garde son identité. Ce que Rahul Gandhi fait, et sa sœur maintenant, est entrée dans la politique. Elle c'est Priyanka Gandhi qui a été nommée responsable de l'Uttar Pradesh, de la partie Est, qu'elle partage avec Sindhia la responsabilité pour la partie Ouest.
Alors justement, Balvira Arora, et on va poursuivre peut-être sur cette idée, on vous entend parfaitement, la ligne est excellente depuis New Delhi, alors on en profite. Parce que c'est vrai que depuis des années, les Indiens critiquent un peu Rahul Gandhi, considèrent qu'au fond, bien que fils et petit-fils de Premier ministre, il n'a pas l'étoffe de ses aïeux et qu'il conduit nécessairement le parti dans le mur. Il se trouve que désormais, la sœur donc de Rahul, Priyanka, a fait son arrivée dans le paysage politique. On l'a dit particulièrement brillante, on l'a dit bien meilleure oratrice que son frère. Est-ce que c'est par elle que passera le salut du parti et que l'opposition finira par faire son grand retour? Vous y croyez, vous Balvira Arora?
Il est trop tôt pour évaluer l'effet que l'entrée dans la bataille de Priyanka aura sur le résultat. Mais ceci est certain, c'est qu'elle a, c'est un naturel pour la politique. Elle a un côté charismatique et elle rappelle sa grand-mère Indira Gandhi que les gens n'ont pas oublié. Donc tout ça, c'est positif pour le parti du Congrès. Et il y a toujours eu cette question, son père Rajiv Gandhi l'avait décidé autrement, c'est se concentrer sur le pouvoir au centre et laisser les partis régionaux gagner dans les États. Il avait appelé ça la nation avant l'État, avant les États. Et là, ça s'est avéré désastreux. Donc, Rahul a gagné beaucoup de confiance après le bon résultat des élections des trois assemblées dans les États. Et aussi, il a gagné une certaine envergure. Il parle mieux, il attaque. Et je crois qu'il est... il est parti pour une campagne où Modi aura du mal à faire face à ce nouveau Rahul et à Priyanka.
Je vais faire réagir peut-être nos deux invités ici en plateau qui sont toutouis, hein, qui boivent vos paroles. Jean-Luc Racine, Charlotte Thomas. C'est vrai que Jean-Luc Racine, régulièrement vous êtes venu à ce même micro et on a parlé de l'opposition, on a parlé de Rahul Gandhi et souvent vous m'avez dit, voilà, il n'a pas beaucoup de charisme cet homme-là et ce n'est pas l'avenir du parti. Est-ce que désormais il a vraiment acquis ce statut de chef de file de l'opposition?
Alors clairement, oui, depuis qu'il est passé du statut de vice-président à président du parti à la fin de 2017. Mais l'entrée en lice de sa sœur, qui galvanise les militants du Congrès, parce que c'est vrai que il y a une ressemblance avec la figure emblématique d'Indira Gandhi qui va au-delà, évidemment, des paramètres physiques. Mais le cœur du problème aujourd'hui n'est pas là. Le cœur du problème aujourd'hui, c'est que ce qu'il est convenu d'appeler la Grande Alliance, celle que Modi vient de définir quand il était hier en tournée dans le sud de l'Inde comme étant une alliance adultère, s'il vous plaît. Cette grande alliance, eh ben, il n'est pas du tout sûr qu'elle se concrétise. La grande alliance, ça aurait été de mettre tous les anti-BJP ensemble, depuis les déçus de Narendra Modi jusqu'aux partis régionaux dont on vient de parler, le Congrès et la gauche communiste qui essaie de réapparaître. Mais pour le moment, on en est loin.
Charlotte Thomas, le front anti-Modi n'est pas encore complètement là.
Oui, bah déjà, c'est une chose un peu plate, mais un front anti-quelque chose ne propose pas un scénario alternatif. Être contre Modi est quelque chose d'assez pauvre, en fait, quand même quelque part en termes idéologiques. D'autre part, le problème de cette grande coalition qui se dessine, c'est que, comme l'a dit Balvir, elle est animée par des grands chefs locaux, des chefs très très importants des partis régionaux, dont aucun ne va vouloir, en fait, s'effacer devant l'autre. Donc, on a une coalition, mais on n'a pas de chef de file de cette coalition. Rahul Gandhi, effectivement, a repris de la couleur, mais face à ses leaders des grands partis, je pense au Bengale, à l'Uttar Pradesh, au Karnataka, ne fait pas non plus adhésion, enfin ne récolte pas l'adhésion non plus de tous ces chefs régionaux qui ne veulent pas vraiment de Rahul Gandhi non plus. Donc on est face à une coalition un peu vide. Et puis juste quelque chose quand même sur les élections qui ont été remportées dans les trois États qui ont été de la Hindi Belt, ce qu'on appelle par le Congrès. Il faut savoir quand même que les analyses montrent que le Congrès n'a pas réussi à attaquer le cœur de cible, enfin le cœur électoral du BJP, qui sont les castes intermédiaires et les castes supérieures. Et ça, ce vote reste acquis à Narendra Modi, quels que soient en fait les débats aujourd'hui économiques et sociaux. Donc,
merci beaucoup à tous nos invités. Balvir Arora qui était avec nous à l'instant par téléphone. Jean-Luc Racine, Charlotte Thomas, merci infiniment également l'un et l'autre. Je rappellerai vous concernant Charlotte Thomas, Pogrom et Ghetto, les musulmans dans l'Inde contemporaine, c'était chez Kartala. Pour vous, Jean-Luc Racine, l'un parmi tant d'autres, l'Inde et l'Asie, nouveaux équilibres, nouvel ordre mondial, c'était aux éditions du CNRS.
Oui.
Merci infiniment à tous les deux. Merci beaucoup.
Merci.
On poursuivra demain notre série qu'on entame aujourd'hui sur les campagnes électorales, mode d'emploi sélectionné, les candidats. Ça sera demain, on parlera du Nigeria, du Sénégal et bien d'autres choses encore. Pour l'heure, 11h53, minutes, l'heure pour nous de retrouver Brice Couturier.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Sérotonine, le dernier roman d'Houellebecq, donne déjà lieu à de nombreux comptes rendus dans la presse internationale. Qu'en dit-elle justement cette presse internationale ?
Visionnaire, annonciateur du pire, devin des épouvantes, telles sont les expressions qui reviennent sous la plume de la plupart des commentateurs étrangers à propos du dernier opus de notre Michel Houellebecq national. N'avait-il pas prédit, poursuit-il, les attentats de Bali dans Plateforme ? En outre, la parution de Soumission le jour de l'attaque djihadiste contre Charlie Hebdo lui a conféré dans le monde entier une espèce de réputation de prophète d'apocalypse. Oui, ses augures sont désormais guettés à travers le monde parce que, je cite Robert Zaretsky dans la revue Foreign Policy, on le considère comme l'agent de publicité de l'esprit du temps, l'auteur qui met en récit les mots personnels et collectifs qui démoralisent notre modernité épuisée. Le même Zaretsky n'hésite pas à écrire que Houellebecq est l'écrivain français le plus connu dans le monde depuis Albert Camus et Simone de Beauvoir. Preuve de son instinct prophétique, son histoire de paysan normand pris en tenaille entre l'agro-industrie mondialisée et les règlements absurdement détaillés de l'Union européenne aurait annoncé le mouvement des Gilets jaunes. Le romancier prophète mettrait aussi en scène l'aveuglement des élites urbaines devant la ruine des campagnes à travers le témoignage de son héros narrateur à un ingénieur agronome parisien nommé Florent-Claude Labrouste. Avec son fatalisme lassé, sa manie du pire, Houellebecq fait culminer son roman dans une scène catastrophique, un affrontement meurtrier entre des paysans révoltés armés de fusils de chasse et un bataillon de police anti-émeute. Mais, observe Zaretsky, la compassion du romancier français ne se limite pas aux paysans poussés au suicide par des exigences absurdement contradictoires. Elle s'étend aussi à ces élites éduquées qui font le gros dos et se replient sur elles-mêmes dans des métropoles presque aussi invivables que les campagnes françaises elles-mêmes. Car si les petites villes françaises agonisent d'un mal de vivre matériel, dans les métropoles, c'est un malaise moral qui plombe les habitants. Et si ce malaise est aussi général en France, diagnostique Zaletsky, c'est que ce pays souffre d'un même sentiment d'érosion de son identité nationale. Et de relever le caractère de plus en plus manifestement spenglerien de l'œuvre de Houellebecq, celui-ci a d'ailleurs reçu l'an dernier à Bruxelles le prix Oswald Spengler. Pour justifier leur choix, les membres de la société en question qui attribuent ce prix ont précisé qu'à leurs yeux, je cite, « les écrits de Houellebecq traduisent l'immense souffrance d'une société pressentant qu'elle atteint son terme sans savoir comment se défendre ».
Et puis un autre son de cloche dans le Guardian, Brice Couturier.
Oui, dans le grand quotidien de la gauche britannique, Angélique Chrysaphis se montre beaucoup moins enthousiaste. Certes, Houellebecq est le produit d'exportation littéraire numéro 1 de l'édition française, la parution de ses Sérotonine en anglais est annoncée pour le mois de septembre, la version allemande est déjà en librairie. Certes, Houellebecq a le don de sentir venir les choses, mais la manière dont il parle de sexualité est vraiment pénible et datée. Son héros, encore un vieux blanc, sexuellement insatisfait et bourré d'antidépresseurs qui le rendent impuissant, passe en revue, interminable, ses coucheries ratées. Et la manière dont il évalue les prestations de ses partenaires féminines révèle le triste client des prostituées. Plus grave encore peut-être aux yeux du Guardian, Houellebecq a fait récemment dans un article donné au Harper's un éloge appuyé du président Trump et du Brexit. Le romancier du malheur français loue la politique protectionniste de Trump, le meilleur président américain qu'il ait vu de son vivant, dit-il. Il vilipende de la même main l'Union européenne pour son libéralisme économique. Je cite, « L'Union européenne est une idée idiote qui a progressivement tourné au mauvais rêve, mais nous allons nous réveiller finalement », écrit Houellebecq. Pour Rachel Donadio, pour la revue Americans et Atlantic, le dernier Houellebecq a été écrit en mode lugubre. Il aurait pu sortir avec une notice signée par Steve Bannon ou encore emballé dans une publicité pour une société pharmaceutique produisant des antidépresseurs. Le thème de la santé déclinante de son principal protagoniste est censé refléter métaphoriquement l'état de santé de la société française elle-même. C'est, dit-elle, la montagne magique à l'époque du post-Brexit, soit un livre sur l'impossibilité d'atteindre le bonheur dans la société de consommation. Mais la question qui est rarement posée, à part peut-être par le critique de la Deutsche Welle, c'est pourquoi les Français se reconnaissent-ils dans la vision pourquoi les Français se reconnaissent-ils dans la vision du monde d'un dépressif chronique? En quoi leur société dysfonctionne-t-elle au point qu'un Houellebecq soit devenu le témoin capital de l'état moral du pays? Pourquoi les habitants d'une nation qui passait il y a 30 ans pour un pays de cocagne sont-ils devenus cyniques, nihilistes et désespérés?
Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique qu'on peut retrouver sur le site de France Culture, www.franceculture.fr.